Quoiskina, ici Alexandre Nicoada, accompagné de ma collègue Gabriel Piché. André n'est pas là cette semaine, fait que, ça va être Gabriel qui va la remplacer. Cette semaine, nous avons Samian qui nous a invité. Fait que, Samian, si tu peux t'introduire en tes propres mots à nos auditeurs.
En quelques mots, je suis un père de famille. Je suis maintenant animateur radio, acteur, musicien. Conférencier aussi ces temps-ci, en début d'hiver. Et voilà, à peu près ça.
Bon, ben, bienvenue parmi nous, Samian. Donc, effectivement, polyvalent, multitalent. Donc, on a beaucoup de choses, beaucoup de matériel qu'on peut aborder aujourd'hui. Comme on le mentionnait tout à l'heure, on va commencer directement en parlant de Minotan. En fait, l'émission dont tu es l'animateur, je crois, à Espace Musique, c'est bien ça?
Sur Ici Musique,
oui. Sur Ici Musique, oui, désolé. Donc, oui, j'ai eu l'occasion d'écouter à quelques reprises, là, l'émission, c'est, ça me rappelait un peu The Current, qui est à CBC aussi, la façon dont c'est amené, l'animation, j'aime bien, mais j'aimerais savoir... Comment c'est né ce projet-là de Minotan? Qui a eu l'idée? Qui a approché qui pour le faire?
Ben, on connaissait déjà CBC Reclaim, qui est un peu le grand frère ou la grande sœur de Minotan, mais déjà Geneviève Levasseur à ICI Musique m'a contacté au printemps dernier pour me dire qu'il allait avoir cette émission-là à ICI Musique en français, avec une animation en français. Et puis... au-delà, tu sais, déjà là, pour moi, c'était déjà un beau cadeau. Je pense que Ici Musique est maintenant une émission vraiment diffusée, axée en fait sur la diffusion des artistes autochtones, mais en plus, on me demandait de l'animer. Donc, c'est arrivé comme ça, en fait. C'est arrivé comme ça. Donc, depuis le printemps 2022, pendant tout l'été, je me suis mis à découvrir des artistes, à vraiment là, me plonger dans la musique et la diversité qu'il y a à travers les artistes autochtones, autant au Canada, mais autant aux États-Unis et partout à travers le monde. Donc, il y a toujours une découverte internationale à chaque semaine. Il y a toujours... et je pense que c'est le type d'émission qui peut faire tomber beaucoup de barrières linguistiques. Tu sais, de vraiment... On est beaucoup axé sur des quotas, je pense, en radio. Et je pense que Minotan apporte un éventail un peu plus large et de focusser sur les artistes autochtones, donc qui s'expriment en langue autochtone, en français, en anglais. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça. Ouais.
Oui, effectivement. Et désolée, j'ai dit The Current, mais effectivement, c'est Reclaim. Là. je mélange mes émissions à CBC. Yeah. Mon Dieu! Mais oui, non, effectivement, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est justement cette mise en valeur-là des artistes autochtones, pan-canadiens, mais aussi cet aspect-là international, parce que pour le commun des mortels, souvent, ils vont en nommer une couple, là, tu sais, les grands noms, là, mais en même temps, il y en a plusieurs insoupçonnés, entre autres, tu sais, ce que je trouvais intéressant, entre autres, Willie Dunn, qui était, en fait, habitait Montréal. Puis bon, bien des gens avaient oublié que Willie Dunn, c'était comme notre Johnny Cash, si on veut, là, d'une certaine manière, et qu'il était Canadien, autochtone aussi. Donc, c'est intéressant, effectivement, Minotan, enfin, pour les gens de langue française, d'avoir accès à cette plateforme-là, parce qu'on sait, quand on prend la route un peu partout au Québec, parfois, de manière très régionale, on a accès à des émissions en Innu, quand on va à Wendake aussi, ou à proximité de Wendake, il y a la radio où on entend, on peut entendre la Tikamek, l'Innu, l'Innutitut, bon. Mais ici, effectivement, dans la grande région métropolitaine, fallait se brancher sur CBC, mais là, de l'avoir en français, en plus animé par toi, c'est fantastique. Mais dis-moi, est-ce que tu avais l'expérience d'animation en radio avant de te lancer dans ce projet? Comment tu as abordé ça, ce défi-là?
En radio, zéro. J'avais jamais fait. On m'avait déjà proposé de faire de la radio. On m'a souvent dit que j'avais une voix radiophonique. Donc, des fois, j'allais faire des entrevues à Ici Musique ou à Ici Première. Puis, c'est déjà arrivé qu'il y a des réalisateurs qui me gardaient après l'émission pour me faire faire une audition. Ça, je me souviens de ça il y a quelques années où on me mettait le chrono et on me disait « Écoute, est-ce que tu peux nous parler d'un sujet? » C'est quand même difficile de faire ça. Ceux qui font du live et tout, qui font des épisodes, des émissions en fait de 2 heures, 3 heures, chapeau. Mais j'ai fait de l'animation à la télé. J'ai le privilège d'animer une série qui s'appelle En marche du monde à TV5. J'ai fait d'autres animations auparavant, il y a quelques années avec APTN. Donc, de faire de la narration aussi, faire de la voix. Je suis un gars de studio, c'est sûr que ça fait 15 ans que j'ai travaillé sur 5 albums en studio, donc il y a peut-être cette expérience-là qui m'aide aujourd'hui, mais j'avais pas d'expérience en radio. Puis honnêtement, je suis plus sincère que je suis en ce moment, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'offre dans ma carrière, de pouvoir animer une émission de radio. Je suis vraiment, mais vraiment reconnaissant envers l'équipe de d'ici musique, l'équipe avec laquelle je travaille. Et puis c'est un beau défi et je pense que je m'adapte et je j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'aime ça vraiment.
Puis j'imagine, c'est ça, ça doit être en tant qu'artiste aussi, ça doit être un privilège de pouvoir partager ton univers musical, veux pas, parce que c'est toi qui montes la programmation, j'imagine, ou il y a du monde avec toi. Non?
Okay. On est une équipe, il y a Marine Fleury qui est à la réalisation, Pascal Richard aussi qui était à la réalisation, qui est en pause en ce moment, et Nicolas Vincent Bouchard qui est à la recherche. Donc, c'est un mélange de un peu de tout le monde. Donc, quand j'ai vraiment des coups de cœur ou vraiment une belle découverte, je l'envoie à l'équipe. Mais sinon, j'aime me laisser surprendre à chaque semaine. Et même si on est à la 14, on s'en va à la 15e semaine la semaine prochaine, et on a 41 épisodes à faire par saison, à chaque semaine encore, je découvre des artistes. Donc, et j'aime ça. J'aime me laisser surprendre. À chaque semaine, j'ai un coup de cœur et à chaque semaine, j'ai une découverte. Et c'est ça. Je pense que c'est le grand privilège que j'ai de faire de la radio en ce moment.
Puis justement, là, tu mentionnais En marge du monde, cette émission maintenant disponible aussi sur Internet. Les deux premières saisons sont disponibles en ligne sur TV5. Dis-moi, ce défi-là, comment ça s'est présenté à toi, cette opportunité-là? Parce que c'est quand même une émission très intéressante, là, en fait, là, d'aller à la rencontre des gens qui ont fait des choix de vie, ma foi, hors normes, d'une certaine manière. Comment tu as vécu ça, cette aventure?
Ben, c'est l'équipe, Denise et Rémi qui sont... qui ont Océan Télévision, qui viennent de changer de nom, Océan Média, je pense, qui vient de... Les producteurs, bref, m'ont contacté fin 2017, début 2018, parce qu'on a fait une saison avant la pandémie, la première saison. Là, c'est pour ça que la deuxième saison, il y a eu un 2 ans d'écart entre les deux saisons, mais ils m'ont approché. On se connaissait pas, ils me connaissaient pas non plus comme animateur. Je pense que le diffuseur TV5 m'avait proposé et j'ai eu une rencontre avec Denise et Rémi qui produit En marche du monde on a pris un café ensemble, je suis allé les rencontrer et on m'a proposé le projet. Le projet était déjà écrit, on partait déjà en production, donc je lisais on dit les personnages, mais c'est beaucoup plus que des personnages, mais je lisais la vie de ces personnes-là qu'on allait rencontrer. Et j'étais fasciné de voir à quel point l'humain, finalement, était au centre de ce projet-là. Je pense que c'est ce qui m'intéressait le plus à la base, d'aller à la rencontre d'êtres humains et de donner la parole à ces gens-là qui ont des philosophies tellement riches, tellement inspirantes. Et c'est une émission qui me ressemble beaucoup, que j'y sois ou non, en fait. Ça avait été un autre animateur, je pense que je me serais... vraiment reconnu à travers ces gens-là. Et puis voilà, on a fait déjà 2 saisons, 20 épisodes en tout. Donc, ça a été énormément de voyages parce que chaque épisode est dans un pays différent. Donc, ça demande beaucoup. C'est une période très, très intense dans l'année. C'est pour ça que je fais moins de choses autour, mais reste que c'est extrêmement enrichissant. Et puis, on s'enligne bien peut-être pour une suite, donc je peux rien dire pour l'instant, mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de bons retours sur cette émission-là, donc voilà.
Ben, tant mieux, c'est ce qui est une bonne nouvelle en soi. Dis-moi, quand tu es à destination, l'équipe est là combien de temps pour le tournage quand tu arrives dans un pays? Ça se passe comment?
On tourne en environ 5 jours, à peu près. Il y a 4 jours vraiment intenses où on se plonge dans leur quotidien, en fait. Et c'est sûr que ça devient un peu exigeant pour eux, autant que pour nous. Je veux dire, on n'est pas là en touriste, on n'est pas là en voyage, on n'est pas là en vacances. Au contraire, c'est vraiment de plonger dans leur quotidien. Donc, c'est sûr qu'on veut montrer le plus de leur quotidien. Donc, on leur en demande, en fait, un peu plus. Parce qu'en 4 ou 5 jours, c'est toujours 5 jours, en fait, de tournage. Moi, j'en fais 4 ou 5, dépendamment des jours de déplacement. Mais c'est qu'on leur demande de faire des choses qu'ils font dans une année, en fait, et à quoi ressemble leur quotidien. Donc, c'est sûr que on est toujours... Il y a des fois qu'il y a des choses qui vont nous montrer qui font pas nécessairement dans la saison là où on est et qui doivent attendre au printemps, qui doivent attendre à l'hiver, à l'été, peu importe. Mais fait il y a toujours ça qui est quand même exigeant pour eux. On sent toujours qu'après 3-4 jours, les gens sont comme un peu essoufflés, mais c'est à leur rythme aussi. Donc on s'adapte à eux. Et parce que souvent, les équipes de tournage qui se déplacent, on le sait, c'est des fois des horaires super précis, c'est des horaires. Puis l'avantage dans Marche du Monde, c'est qu'on est une petite équipe. On est 3 sur place avec un fixeur qui est là pour parler la langue locale. Et on y va à leur rythme. Donc, c'est sûr qu'il y a ça qui est un avantage. Et que les gens se mettent en confiance assez rapidement. Là. Je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement simple et facile d'approche. Fait qu'ils sont en confiance déjà en partant. Fait que c'est sûr qu'après ça, ça se passe toujours bien, ces tournages-là.
Bon. Puis, dis-moi, parce que là, tu parlais de 20 épisodes. Bon, et dans ces 20 épisodes-là, dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi? Quel a été l'entretien ou l'échange que tu as eu un des plus prégnants? En fait,
ils ont tous et toutes quelque chose d'unique. Et c'est sûr qu'à chaque voyage, je reviens à la maison et on remet beaucoup de choses en perspective. Ça joue beaucoup dans ma tête, ça joue beaucoup dans mon quotidien, dans ma façon de comment est notre mode de vie en famille. J'ai toujours des belles discussions avec mon épouse, l'éducation de nos enfants. Tu sais, j'ai 3 enfants. Je trouve que quand je reviens d'un tournage dans Marche du Monde, le temps va vite, les choses vont vite. Je pense qu'on prend beaucoup de choses pour acquis. Donc, ça me ramène toujours à l'essentiel. Et des fois, ça me trouble un peu. Des fois, il y a un choc en revenant à la maison, mais lequel m'a le plus marqué, dans la saison 2 qu'on a fait dernièrement, et c'est le prochain épisode qui va être ce vendredi, c'est Flaminio, un homme qui vit au nord de l'Italie, dans les montagnes, et zéro technologie, il veut un peu comme l'époque médiévale avec des machineries artisanales et tout, me faisait beaucoup penser à mon père. Donc, c'est sûr que ce personnage-là, je l'appelle un personnage parce qu'il faut vraiment voir l'épisode pour comprendre, mais c'est quelqu'un de très fascinant et c'est un homme de 74 ans, je crois, 74, 78 ans, et qui avait un regard d'enfant, qui avait un cœur d'enfant, qui était très sensible, très... très ouvert en même temps. Je pense que cette rencontre-là m'a beaucoup marqué. La saison 1, c'est sûr que la rencontre avec Emma Orbach, qui était au Pays de Galles, a été une rencontre très, très, très frappante parce que je partais le lendemain de la naissance de mon fils. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas prévoir dans la vie entre le travail, la famille et tout ça, mais... Je sais pas, il y a des rencontres comme ça qui m'ont marqué à cause des circonstances que je vivais à la maison. Ouais.
Intéressant. Puis, par rapport à ces voyages-là, dans le cadre de En marge du monde, dis-moi, est-ce que tu en as profité aussi pour reprendre la caméra et faire sortir quelques photos? Parce qu'il faut se rappeler aussi que tu as toute une trajectoire en tant que photographe. Est-ce que tu as eu l'occasion de t'y remettre pendant ces tournages-là?
Oui, beaucoup. Même que dans la saison 1, toute la promo était autour des photos que je prenais à chaque épisode, à chaque endroit, que ce soit des portraits, du paysage et tout. C'est sûr que puis la saison 2, je me suis équipé d'un drone, je me suis équipé j'ai pris l'opportunité de même faire un peu d'image avec David, qui est le directeur photo dans Marche du Monde. Donc, des fois, on a même intégré de mes images à quelques épisodes de la saison 2. Donc oui, il y a cette passion-là qui est là. Donc, travailler avec des directeurs photo, travailler avec des bons caméramans, ça m'aide toujours à me pousser encore plus loin dans ce milieu-là. Mais reste que la saison 2, peut-être que je mettais moins l'accent là-dessus parce que j'ai quand même des journées chargées. Il faut aller chercher du contenu, il faut vraiment être avec ces gens-là. Et puis, je pense que mon appareil photo, des fois, est plus de côté. Mais oui, ça reste super inspirant parce qu'il y a des beaux personnages et on est dans des paysages à couper le souffle parce que, en marge du monde, on voyage pas dans des endroits touristiques. On est souvent dans des endroits très reculés, dans des endroits où les touristes vont pas. Donc, on est chez les gens, vraiment. Et puis, donc, ça... des paysages qui nous coupent le souffle à chaque fois. Ouais.
Je semble éprouver quelques... J'ai quelques problèmes techniques, désolé.
Tu m'entends? Là, je te vois quand même.
Vous m'entendez?
Oui, je te vois aussi.
Oui, je t'entends. C'est juste un peu pixelisé, mais ça va.
Bon. Puis, j'imagine qu'éventuellement, on aura droit, ben, je ne sais pas, hein, je dis ça sous toute réserve, là, mais j'imagine qu'éventuellement, on aura droit à une nouvelle exposition photo de Samienne, pourtant, en lien avec En marge du monde. Est-ce que c'est possible pour partager? Parce qu'on sait, là, tu as un très bon œil là-dessus pour les photos. Moi, j'avais vu là, de ta dernière expo photo, puis ça m'avait... Ça m'avait coupé le souffle, en fait. Donc là, j'ai juste hâte de voir si ça va être quelque chose éventuellement possible de revoir d'autres photos.
Ça ne sera pas autour d'En marge du monde. Ça va être autour d'un autre projet. Encore un peu tôt pour en parler. On tourne un documentaire en 2023. Autour de la photographie va être un élément super important de ce documentaire-là. Donc, je pense que je viserai à une exposition peut-être pour fin 2023 ou à l'automne 2023. Mais ça reste encore... Il y a beaucoup de détails à régler. Il y a beaucoup de dates à placer. J'ai un horaire un peu, complexe. J'ai un horaire vraiment complexe depuis les dernières années, mais tout ça est à placer en ce moment, mais c'est fort possible que si fin septembre 2023, si Dieu veut, l'exposition sera prête et il y aura quelque chose en photographie au courant de l'année prochaine. Ouais.
Bon, parce que pour les internautes, peut-être, qui se joignent tout juste à nous, ou peu importe, là, ce qu'il faut savoir, c'est que Samienne, dans les dernières années, t'as lancé ton dernier album à l'été 2021. Ensuite de ça, on a pu t'apercevoir pour toi, Flora. On t'a vu aussi dans L'Inhumain. dans les deux productions de Niche Média, entre autres, avec Jason Brennan et Sonia Bonspiel-Boileau. On te voit en marge du monde et on t'entend aussi à... voyons.
À Minotone.
Minotone, pardon. Donc, effectivement, ce qui fait que tu dois avoir un horaire assez chargé. On dit un agenda de premier ministre. Ce qui m'amène à te poser la question, en fait, comment s'est passé tes différentes expériences de tournage, entre autres, pour toi, Flora, et L'Inhumain? Est-ce que tu veux nous parler un peu de tes projets en cinéma? Parce que c'était quand même colossal, ben, comme apport cinématographique dans la dernière année, là, de te voir un peu plus souvent à l'écran. C'était quand même... Est-ce que tu voudrais élaborer un peu plus là-dessus?
Ah, ben c'est toujours un privilège de jouer. Je pense que j'ai vraiment découvert, en fait, c'était quoi le sens de jouer, parce que c'est quand j'arrive sur un plateau de tournage, je suis comme un enfant. Je m'amuse vraiment sur des plateaux de tournage. L'année a commencé, il y avait la diffusion. En fait, je n'ai pas tant tourné cette année, c'est que tout a sorti cette année. Donc, on a tourné L'Inhumain, je crois, c'était il y a deux ans. À l'automne, il y a deux ans. L'automne dernier, on a tourné la série Aller Simple et je suis allé faire un tour sur Pour toi, Flora. Pour toi, Flora, j'ai pas eu. Tu sais, on est dans des époques qui se croisent pas. Donc, les jours de tournage étaient. En fait, moi, je tournais sur Aller Simple. Et j'ai arrêté le plateau de tournage d'Aller Simple pendant 5 jours pour m'en aller rejoindre l'équipe à Maniwaki pour pouvoir tourner avec eux pendant quelques jours. Et je suis revenu sur le plateau de L'Inhumain parce que d'Aller Simple, parce que ça demandait 6 semaines de tournage qui était quand même assez intense. Mais c'est des expériences incroyables. T'sais, pour toi, Flora, j'ai cru à ça depuis le départ. Je pense que j'étais super reconnaissant que Sonia m'offre le rôle de Jean-Charles, qui est le fils de Rémi dans Pour toi, Flora. Puis c'est un personnage. Rémi est un personnage central de pouvoir apporter quelque chose, de pouvoir raconter cette histoire-là. Ça reste essentiel, en fait. Je pense que c'est notre histoire commune au Québec, et c'est pas que seulement l'histoire des Premières Nations, c'est l'histoire du Québec en soi. Je pense qu'on avait besoin de raconter ça. Et pour toi, Flora, et L'Inhumain a vraiment quelque chose d'unique et particulier et de nouveau au Québec, parce qu'on entre dans de la télé et dans du cinéma qui est produit, écrit, réalisé, joué par des Autochtones. Et ça, ça se voyait au Canada anglais, mais au Québec, c'est une première, autant pour le cinéma, autant pour la télé. Donc, de participer à ces deux projets-là, qui oui, le même producteur des deux côtés, me fait comprendre à quel point c'était important de le faire. Et L'Inhumain a fait un chemin aussi, même encore. Hier, j'apprenais que un distributeur... anglophone d'une boîte de distribution à Toronto venait de prendre les droits de diffusion. Donc, est-ce qu'il va avoir une version anglophone? Mais on sait qu'il va avoir une diffusion plus du côté anglophone. Jason et moi, on a remporté un prix à San Francisco au American Indian Film Festival. Donc, tu vois que ce genre de production-là a sa place et peut faire son chemin, puis il y a L'Inhumain qui remporte un prix à Cannes, qui a une diffusion à Radio-Canada, sur ici tout.tv, c'est énorme, c'est vraiment énorme, puis je me sens vraiment, mais vraiment privilégié d'avoir fait partie de ces grandes premières, en fait. Moi, je le vois vraiment comme ça, puis ouais, content, très très content, surtout fier, en fait.
Oui, bien effectivement, comme je le mentionnais, c'est monumental. En fait, quand on regarde, par exemple, Pour toi, Flora, cette série-là a permis justement aux Québécois, à la collectivité, de enfin mettre en image, parce que bien des Québécois se refusaient à voir ou à, ne serait-ce que de penser que c'était arrivé. Les pensionnats, il y en avait encore qui disaient qu'au Québec, il n'y en avait pas eu. Donc, cette série-là, justement, nous permet de mettre en image le récit des survivants aussi, puis de faire comprendre à la population québécoise que c'est bel et bien arrivé, qu'il y a eu des impacts. Autant chez les Autochtones que chez les Premières Nations, mais surtout chez les Premières Nations, on s'entend, mais il reste que, moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant pour toi, Flora, c'est qu'enfin, on avait cette série-là qui mettait en mots, en images. Sonia, à ce niveau-là, a fait un travail colossal, puis L'Inhumain aussi, de s'inspirer de l'imaginaire des Premières Nations, justement, pour en faire un film comme L'Inhumain, avec une thématique assez universelle aussi. Et bravo hein, pour la distribution là, en anglais qui va s'en venir sous peu. Mais c'est effectivement des incontournables. Il fallait qu'éventuellement ça sorte et t'en fais partie. Alors, c'est, c'est bien. Puis dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres projets de films qui s'en viennent pour toi dans les prochains mois? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que tu prends un break ou...
prendre un break, j'ai l'impression que si j'aimerais des fois prendre une pause, j'aimerais des fois, c'est clair que des fois je deviens épuisé, je cherche, je me remets en question, ça arrive, je pense que c'est normal, je pense que c'est humain, c'est vrai que en ce moment je suis dans une période de conférence, donc ça c'est quelque chose que je mets à l'horaire à chaque année, qui est une chose extrêmement importante pour moi d'aller rencontrer les étudiants dans les écoles, donc novembre, décembre, jusqu'à février, mars des fois, c'est une période vraiment, vraiment importante pour les écoles, et sinon, Minotan est là depuis. J'ai l'impression que ça m'a calmé. D'être à la barre de Minotan, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui me permet de ralentir, qui me permet de prendre mon souffle. Tu sais, j'ai réalisé le week-end dernier que ça faisait 15 ans que Face à soi-même était sorti et c'est tellement passé de choses en 15 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que de faire du cinéma, de faire de l'animation à la télé, maintenant d'avoir une émission de radio, de continuer à faire des conférences, de continuer à faire de la musique, parce que j'ai ma maison de disques aujourd'hui, donc je travaille avec des artistes, et il y a l'album de Chavahai qui est sorti vendredi dernier, qui est un rappeur maya, j'ai un rendez-vous aussi avec un autre groupe, Esmeralda aussi, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, 12 ans peut-être même déjà, auquel Negamo Music produit son album. Écoute, il y a tellement de projets en ce moment qui sont là, qui ne vont pas me permettre de ralentir ou de prendre une pause, mais qui vont, je suis peut-être rendu à une période de ma vie où je dois choisir aussi et je peux pas tout faire. Donc, y a un projet de film qui est sur la table pour 2023. Mais je pense que l'animation, la télévision, y a encore d'autres choses à faire. J'écris aussi. Je travaille sur un disque. J'ai pas le droit j'en parle pas vraiment, mais... on tente nous autres. Là. Mais est-ce que j'ai envie de sortir un extrait bientôt? Est-ce que je sais pas. C'est un beau problème, honnêtement. Il y a quelques chansons qui sont là que j'ai peut-être envie de laisser aller en début d'année. Donc, si Dieu veut. En fait, je prie à tous les jours pour savoir qu'est-ce que je dois faire et quelle est mes priorités. Et on me demande dans plein de sphères et je vais être honnête, des fois dans ma tête, c'est comme je peux pas tout faire en même temps, mais je dois m'arrêter et faire les choses une chose à la fois et de bien les faire. Je pense que c'est ça mon défi en ce moment. C'est là où j'ai envie de me lancer, ben j'ai envie de bien me déposer, de bien faire les choses. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais voilà.
On a notre collègue Evelyne Boulanger, qu'on salue d'ailleurs. Alors, on ne sait pas où elle se trouve présentement sur le territoire, mais bref, elle nous regarde, elle nous écoute. En fait, Evelyne aimerait savoir... quel est ton conseil pour les gens des Premières Nations qui ont envie de percer eux aussi, que ce soit en télé, en cinéma? Ce serait quoi ton premier conseil à leur donner?
Il faut être opportuniste. Il faut être capable de saisir des opportunités. Il faut être discipliné. Il faut travailler énormément. Il faut être à l'heure. Il y a beaucoup de gens dans les communautés qui négligent ce côté-là. C'est plate, puis je dis pas ça par préjugé, je dis seulement ça parce que je le vois sur des plateaux des fois, je le vois sur des festivals, sur des concerts, sur des où les gens se prennent peut-être un peu les choses à la légère et oublient que y a tout un monde et il y a toute une équipe derrière, que tu fasses de la télé, que tu fasses de la musique, il y a énormément de gens qui travaillent avec toi, autour de toi, et qui t'attendent quand vient le temps de performer ou quoi que ce soit, ou de te présenter à une audition, ou de mais je pense que c'est ça, faut être discipliné, faut pas négliger le faut pas prendre ces choses-là à la légère. Je pense que si on veut faire carrière et si on veut surtout durer dans le temps, moi je pense que c'est là où je me sens vraiment privilégié dans ma carrière, c'est ça, c'est que même après 15 ans, j'ai l'impression que j'ai encore tellement de choses à faire, mais je pense que ça a été énormément de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de... Ouais, je veux pas dire sacrifice dans le sens où c'est difficile, des choses comme ça, mais il faut prendre des bonnes décisions, il faut être capable de bien s'entourer, et il faut arriver à l'heure aussi. Moi, je pense qu'il y a tellement de ces petits détails-là qui peuvent faire une grande différence quand on a réellement envie de faire ça. Le processus d'audition est difficile, atroce, mais il faut le faire. Il y a des choses comme ça qu'il faut faire. Puis il y a des concerts, des fois, qu'on se dit « Ah, peut-être que celui-là en vaut pas la peine » ou des choses comme ça. Mais au contraire, on ne sait jamais qui va être dans la salle. On ne sait jamais qui va venir voir ces spectacles-là. Et c'est ce que j'ai nourri, j'ai l'impression, il y a 20 ans, quand j'ai voulu faire ce métier-là, c'est de saisir beaucoup de petites opportunités comme ça. Et à un moment donné, il se passe des choses, et c'est ce qui est arrivé avec André Didomaine, de Présence Autochtone. Il a fallu qu'à un moment donné, tu fais quelque chose, et c'est cette personne-là qui est dans la salle, et tu te donnes à 110%, tu donnes tout ce que tu as, et puis il y a des rencontres comme ça qui se créent, et grâce à Présence Autochtone, grâce à Wapikoni Mobile, Localocast, tous, je me rappelle encore de cette période-là, c'était ces gens-là, on a tous été alignés en même temps, et ça a donné ce que ça a donné les années plus tard, mais de saisir les opportunités, c'est la clé, j'ai l'impression.
Effectivement. Puis d'ailleurs, tu mentionnais tout à l'heure le 15e anniversaire de Face à soi-même, qui était paru, je pense, en 2009. C'est ton premier album, celui-là. 2007, oui, excuse-moi, mon Dieu. Mais moi, je me souviens de la sortie de cet album-là. Et par après, il y a eu Face à la musique qui est sorti aussi. Deux albums qui m'ont accompagnée quand je suis allée vivre en Argentine, entre autres, parce qu'on m'avait demandé d'apporter de la musique de chez moi qui reflète un peu là, certaines de nos réalités ici, peu importe, là, mais tu sais, c'est un mandat que je m'étais donné. Bref, j'avais apporté, bon, hein, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, là, la bottine souriante, mais je pense que là-bas, les gens en ont eu, puis c'est correct, là. Fait que, bref, j'avais apporté tes deux albums qui sont d'ailleurs restés sur place parce que les gens trouvaient l'écriture, l'écriture des textes pour eux, c'était fascinant, même si ils ne parlaient pas le français, de le lire, bon, ben c'est ça, là, tu sais, ils reconnaissaient certains concepts et tout. Puis ce qu'il avait trouvé intéressant, c'est que tu mettais en lumière justement la situation, les conditions dans lesquelles les Premières Nations au Canada habitaient à ce moment-là, conditions qui n'étaient pas connues de tous au moment où tu sors Face à soi-même, parce que les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation sont venues après. Je veux dire, on était dans un contexte, là, ma foi, les gens ignoraient beaucoup. Et je me souviens qu'à l'époque, en Argentine, c'est ça, des gens des Premières Nations là-bas m'avaient dit « Ah, mais c'est intéressant, nous aussi, on a déjà ce genre de mouvance-là », alors qu'ici, c'était « waouh, c'était nouveau ». Puis quand j'étais revenue au Québec, la première fois où je t'ai vue en spectacle, et à l'époque, je travaillais pas encore, mais bon, c'était à Présence autochtone. Puis ta chanson avec Localocast, qui était un de mes groupes à l'époque là, que je suivais presque religieusement. J'étais « Oh mon Dieu, mais ça arrachait, là. Puis là, je voulais savoir, 15 ans plus tard, quand on regarde ce qui s'est fait dans le... Parce que là, maintenant, Samian, tu es loin d'être seul. Quand on regarde, par exemple, QO52, entre autres, qui lui aussi rappe en Mi'kmaq, si je ne me trompe pas. Je veux dire, il y en a de plus en plus de ces artistes-là. Que penses-tu du cheminement accompli dans les 15 dernières années? Parce que là, dernièrement, il y a eu le Gala de la Disque, entre autres, avec plusieurs nominations. Il y a le Ronnie Kwe aussi qui a été approché par Spotify pour la playlist Indigenous. Je ne me souviens plus c'est quoi le nom de la playlist, mais en fait, c'est elle qui a le mandat présentement de faire découvrir, si on veut, là, toute cette musique-là. Que penses-tu de ces avancées des 15 dernières années? Ma foi, ça a bougé énormément. Toi qui étais musique du monde avant.
Musique du monde et même langue étrangère, c'était quand même spécial. Premier album, même deuxième album, on était dans des zones inconnues encore. Parce que il y avait eu, on connaissait Kashtin dans les années 90. Et il y a eu un Elisapi qu'on a connu aussi dans les, avec son groupe Taïma à cette époque-là. Après ça, il y avait, tu sais, on pouvait pas nommer tant d'artistes autochtones en musique et même comme comédien, même à la télé, même au Québec. C'était très, très, très rare, mais c'est clair que oui, si je regarde les 15 dernières années, il y a des. Maintenant, il y a deux catégories à la disque qu'on peut, et j'espère qu'au fil des années, on va pouvoir continuer à remplir ces deux catégories-là, de pouvoir mettre 5 nominations dans chacune des catégories. Mais il y a eu Révélation aussi, Radio-Canada, de mettre des artistes autochtones aussi dans ces catégories-là aujourd'hui. La scène musicale, elle est en santé. Elle est prospère surtout, c'est ça qui est beau. Puis c'est, je m'en rends compte aussi quand on est rendu à avoir une émission comme Minotan où le mandat premier va être évidemment la diffusion d'artistes autochtones d'ici au Québec. Ça va rester ça le point fort et le noyau. Et on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. Et j'ai l'impression que plus il va y avoir de comment dire, justement, le fait que Radio-Canada, le fait que ICI Musique décide de mettre ça en avant-plan, le fait que la disque mette des catégories pour des langues autochtones et pour des artistes autochtones, le fait que ça va donner le goût aussi aux artistes de se dire « OK, peut-être qu'on n'ira pas jouer à Granby cette année, mais on a une place pour être diffusé, on a des places pour être reconnu, on a des endroits pour où on peut diffuser notre musique et on peut se faire entendre. » Donc, c'est ça aussi c'est ce que je trouve beau. Il y a cet avancement-là, il y a des politiques qui sont vraiment encore difficiles à suivre par rapport à ça, mais il reste qu'il y a des plateformes aujourd'hui pour les artistes autochtones qui vont en avoir de plus en plus encore. Mais si je regarde les 15 dernières années, c'est inimaginable. Quand je me souviens, c'était en 2013, 2014, 2015, j'avais fait 3 saisons d'une émission qui s'appelait Le Rythme sur APTN, et on recevait des jeunes. Mais les jeunes qu'on recevait, c'était Cannon, Scott Pien-Picard, Matthew, c'était toute cette génération qu'on entend aujourd'hui, qui c'est eux qu'on nomme à la disque, c'est eux qui se ramassent dans les talents sur les plateaux de télé. C'est là qu'on voit que c'est ça. Je pense que ça, il a fallu semer à un moment donné, puis aujourd'hui, ces artistes-là, c'est leur tour de briller, puis vont en inspirer d'autres et d'autres, et ça c'est une roue qui tourne, et c'est comme ça. Je pense que il se passe des belles choses, des très, très belles choses.
Est-ce que tu... je sais que dans le fond, dans ton dernier album, c'est entièrement en langue autochtone. J'ai reconnu Mashtan Nuwashish. Son parler aussi, je peux l'entendre, mais est-ce que tu écris aussi en Anishinaabemowin ou tu utilises maintenant encore ta grand-mère ou tes aînés de ta communauté pour faire la traduction?
Oui, c'est des gens de Picogan qui m'ont aidé. France Morat qui m'a accompagné dans ce processus-là. Ma grand-mère, évidemment, on avait déjà quelques trucs de traduit, déjà ensemble, qu'on essayait, que je trouvais. J'essayais toujours de trouver l'angle pour le faire. Mais celui-là, ce qui était spécial, c'est que des fois, j'osais l'écrire moi-même en Anishinaabe, puis je l'envoyais, puis j'étais comme, est-ce que c'est correct? Donc, je pense que j'osais un peu plus, mais j'ai encore besoin d'aide, évidemment. Puis Anishinaabe, je l'entends depuis que je suis tout petit. Fait que, tu sais, j'arrive à le lire, à le comprendre et à le même s'il n'est pas parfait, je pense que l'effort est là à chaque fois, puis j'ai envie de je laisse toujours place à l'amélioration, je laisse toujours place à ce désir-là de vouloir en faire. Puis, mais c'est tout ça paradoxal. Je veux dire, quand tu décides de ne pas en mettre sur un album, les gens te demandent ouais, mais pourquoi tu ne mets pas d'algonquin sur tes chansons? Et puis là, quand tu fais un album tout en algonquin, ouais, mais elle est où ta chanson en français? Puis, tu sais, il y a toujours ça. Puis, ça reste qu'à un moment donné, c'est le fun de créer, c'est le fun de faire des disques, c'est le fun de faire des disques. On est rendu sur les plateformes numériques, il n'y a plus vraiment de disques, mais c'est le fun de faire de la musique. J'ai envie de continuer à en faire parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de le faire. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça vient aujourd'hui avec des attentes, ça vient avec... je pense qu'il faut un peu s'enlever ça de la tête puis continuer à faire de la musique pour les bonnes raisons. Puis ouais, voilà.
Puis, je me demandais, là, parce que tantôt, tu l'as mentionné rapidement, mais tu es revenu un peu très rapidement sur Granby. Moi, ma question, en fait, quelle serait... Parce que là, il y avait Evelyne tantôt qui demandait ton conseil pour les Autochtones qui veulent percer en musique et tout. Ma question, ce serait tes conseils pour les programmateurs de festivals, justement, qui veulent intégrer une programmation un peu plus authentique, autochtone, en fait, qui veulent justement recevoir Mathieu, Canen. Quels seraient tes trucs et astuces pour ces gens qui peut-être ne savent pas par où commencer ou ne veulent pas être maladroits ou ne pas commettre d'impairs?
Ben, c'est... Faut pas mélanger les choses. Il faut pas. Je comprends la position de certains festivals, la politique dans certains galas de vouloir mettre en avant le français et tout. Tu sais, d'abord et avant tout, je m'exprime en français. J'ai grandi en français. Et je comprends ce combat-là. J'ai des textes qui se retrouvent dans les manuels de français dans les écoles et c'est quelque chose que je défends très fort. Mais c'est souvent par rapport à l'anglais. Et c'est souvent ce qui est... mais tu sais, ici au Québec et même au Canada, en fait, on est trois entités. Les francophones, les anglophones, mais les autochtones, d'abord et avant tout. Et même qu'on est les racines de notre propre pays. Et souvent, on oublie de revenir à ces racines. Et que tu sois programmateur de festival, que tu sois diffuseur, peu importe dans quelle position tu te retrouves, il ne devrait pas y avoir de politique quand ça touche les langues autochtones. Je comprends qu'il y en a qui veulent pas, par exemple, tu sais, je vais comprendre que Charlotte Cardin, qui a fait un album en anglais, qui a une très belle carrière au niveau international, dans le monde anglophone et tout, ne soit pas sur une programmation ou une programmation qui se veut 100% francophone. Je comprends ce type de politique-là, mais quand on invite des artistes autochtones, Laura Nikwe, par exemple, que tout son album est en Atikamekw, que je décide de faire un album tout en Anishinaabe, que Scott Picard, par exemple, qui fait un album entièrement en Innu, qu'on les catégorise comme si ça venait un peu brimer le français. Au contraire, c'est complémentaire, c'est tout à l'honneur du Québec de mettre ces langues-là en avant-plan parce qu'on est c'est des langues et des dialectes millénaires. Le français est très jeune à côté des langues autochtones. Donc, la situation qui est arrivée au printemps avec Granby, c'est j'étais content. Je m'attendais pas à un impact aussi grand, mais je suis content de l'ouverture que ça a eu. Je pense que leur fermeture d'esprit a ouvert l'esprit d'énormément de gens au Québec sur la réalité des Premières Nations et comment on décide de protéger le français. Alors que les Premières Nations, on essaie, à même titre, de protéger nos langues. C'est le même combat contre la même colonie en soi. Donc, mais c'est vrai que les langues autochtones, on parle de ça, c'est triplement colonisé par les Espagnols, les Anglais, les Français. Donc, les langues autochtones en soi, on doit pas les enterrer, on doit pas les... au contraire, on se doit de les mettre en avant, et c'est ce qui fait que le Québec aurait tellement... Parce qu'on est la seule place au monde, la seule place au Canada où il y a eu un dialogue de nation à nation. Donc, pourquoi ne pas continuer ça? La paix des braves a été ça, entre Ted Moses et Bernard Landry. C'était un exemple politique, et avec le colocaste, c'était un clin d'œil de se dire, en tant qu'artiste aussi, on peut faire un clin d'œil de nation à nation. Mais pourquoi on n'emboîte pas le pas et on se dit, les diffusions, les salles de spectacle, les tout, entre les artistes francophones et les artistes autochtones, on a beaucoup plus en commun que de différences. Et le français représente 1 à 2% de la population nord-américaine, et les autochtones, on représente 1 à 2% de la population du Québec. Donc, on menace en rien le français. Et au contraire, je pense que le Québec francophone a tout à son honneur de diffuser des langues autochtones au même titre que le français. Mon humble avis, voilà.
Non, effectivement. Puis en même temps, pour les Québécois qui seraient intéressés d'une région à l'autre, parfois il y a des initiatives aussi pour... l'introduction à certaines langues, que ce soit l'Atikamekw, l'Innu, entre autres à Montréal, avec Native Montréal, Montréal autochtone, qui offre plusieurs cours, que ce soit l'Anishinaabemowin, le Ganyanairaga, ensuite de ça l'Innu, l'Atikamekw. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les Québécois peuvent, au-delà de la musique, maintenant, il y a des possibilités aussi d'apprentissage. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en apprenant, par exemple, ce qui est mon cas, moi, je me suis lancée, puis j'ai beaucoup de croûte à manger, là, mais moi, je me suis lancée dans l'apprentissage de l'Innu, parce que moi, d'où je viens, c'est la population qui était présente aussi, avec qui on avait des contacts. Puis bon, fait que je me disais, l'Innu, c'est pour moi la langue du territoire d'où je viens. Et c'est fou à quel point on redécouvre sa propre langue quand on apprend une langue autochtone. C'est tellement riche comme possibilité. Puis je suis parfaitement consciente que je ne serai jamais bilingue français Innu, mais au moins je me dis, je me fais l'oreille et je me fais les yeux aussi à lire certains mots. Et je me dis, à chaque mot que j'apprends, je me rapproche des textes de Florent Volant, de Joséphine Bacon, tu sais, je me rapproche de ses trésors aussi. C'est vraiment par là, je pense, que va passer aussi tout ce qui est la notion de territoire, d'occuper l'espace. Quand on entend ces langues-là, on se dit, mais c'est des langues qui ont été parlées, comme tu disais tout à l'heure, certaines sont des langues millénaires qui ont occupé l'espace. Donc, ce serait à notre avantage, les Québécois, de s'y faire l'oreille parce que ça permet l'enracinement. Puis la cohabitation aussi, cette fameuse réconciliation dont il est question, selon moi, va passer aussi par l'apprentissage de ces langues, sans nécessairement se dire « oui, je vais devenir bilingue ». Non, mais juste ne serait-ce que de reconnaître quelques mots, puis « bonjour, comment ça va, merci, au revoir », tu sais, comme... Les gens qui se donnent la peine d'apprendre le vocabulaire de base quand ils vont en République dominicaine ou à Cuba, ils le font en espagnol. Je me dis, mais pourquoi vous ne le faites pas avec les langues de par chez vous, si vous habitez à Saint-Michel-des-Saints, à Joliette ou peu importe, c'est d'apprendre justement une base d'Atikamekw, que ce soit l'Innu, l'Inuktitut ou le Cri, un peu plus haut vers le nord, ou l'Anishinaabemowin. Bref, le territoire du Québec est très riche, justement. C'est à travers ta musique, entre autres, et celle de Laurent Nicoué et les autres, que je pense que les Québécois vont justement s'ouvrir de plus en plus.
Mm-hmm. Puis je pense que c'est une question de c'est toujours une question de politesse aussi. Et tu sais, la réconciliation, c'est bien beau parce que j'ai plus l'impression qu'on nous vend un concept politique parce qu'elle est là depuis longtemps, la réconciliation, avant même qu'on essaie de nous la vendre. La vérité, par exemple, est importante et je pense que c'est deux choses qu'il ne faut pas nécessairement mélanger, mais c'est une question de politesse et de territoire. Donc, c'est des discussions que j'ai eues dans tellement d'écoles, parce que je fais des conférences dans la francophonie, en fait. Là, autant je m'en vais, j'en ai une autre qui est à Vancouver, j'en avais d'autres qui étaient en Nouvelle-Calédonie, ici, au Québec, mais c'est ça, c'est la base même d'une politesse. Si nous, comme par exemple, comme animateur radio, on s'en va faire un show de musique à Berlin, en Allemagne, par politesse, on va apprendre quelques mots de base en allemand. On est comme ça un peu partout à travers le monde et puis et on oublie de faire ça chez nous. Fait, pour moi, c'est ça. Je pense que c'est une question, surtout quand on apprend l'histoire et comment on a demandé aux Autochtones d'apprendre le français ou l'anglais, ça serait, j'ai l'impression, un juste retour des choses de se dire, regarde, par politesse, oui, je suis sur la Côte-Nord, j'aimerais peut-être apprendre, ou des familles qui décident d'aller travailler à cette île, à Baie-Comeau, peu importe, des familles qui... C'est ça, je pense que c'est d'abord et avant tout une belle politesse à avoir, de vouloir en savoir un peu plus.
J'avais lu dans mes lectures, sur dans mes recherches linguistiques, là, c'était courant dans le temps, mettons, avant la loi sur les Indiens, c'était courant que les personnes peuvent se parler en 6-7 langues différentes. Ils étaient aussi capables de communiquer à travers le langage des signes. C'est un langage des signes qui pouvait aller très loin jusqu'à dans l'ouest du Canada. Là. Ouais. Déjà là, on était déjà très bon avec la langue, au niveau des langues. Puis tu avais aussi beaucoup de gens qui étaient capables de s'exprimer très bien. Quasiment encore de la poésie, mettons des discours oratoires vraiment, vraiment bons.
Et les premiers colons le faisaient naturellement. Donc, il y avait des missionnaires qui arrivaient et ils parlaient Mi'kmaq et ils parlaient autant qu'ils parlaient irlandais, autant qu'ils parlaient français, espagnol. Donc, il y avait déjà ça qui était établi depuis tellement longtemps. Et même entre les nations autochtones, tu sais, je veux dire, le pensionnat de Saint-Marc, il y avait beaucoup d'Atikamekw qui venaient. Ma grand-mère est Anishinaabekwe, mais ma grand-mère roule ses airs. Et on s'est toujours demandé pourquoi elle roulait ses airs, parce que tous ses amis au pensionnat étaient Atikamekw. Et c'est la différence qu'on a entre les Atikamekw et les Algonquins, c'est la lettre R que nous, on n'a pas. Fait qu'on se demandait pourquoi ma grand-mère roulait ses airs, mais parce qu'elle entendait seulement les autres enfants parler Atikamekw et elle apprenait cette langue-là de cette façon-là. Donc, c'est possible. On sait que c'est possible et ça se fait depuis tellement longtemps, donc pourquoi arrêter de le faire? Et surtout, moi, je trouve ça dommage quand on s'en donne une leçon. Tu sais, c'est comme si au Québec, on se dit, on veut bien paraître et on veut que les gens apprennent le français, on veut que les gens, tu sais, puis qu'on donne une leçon à une échelle internationale et tout, alors qu'on ne le fait pas nous autres mêmes. Ça, des fois, je trouve ça un peu... je trouve ça un peu embarrassant, tu sais. Je pense que c'est. Elle est là, là, quand on parlait de politesse et tout. Donc, voilà.
Donc, ben voilà, je pense, Alexandre, parce que moi, j'avais pas. Pour l'instant, j'avais pas d'autres questions ou commentaires. Mais je pense que si vous le vouliez bien, on pourrait déjà passer au bloc linguistique que mon collègue Alexandre nous a préparé aujourd'hui. Alors, qu'a-t-on au menu, Alex?
Ben oui, mais c'est ça. Moi, ça a été facile parce que Minotan, le nom de ton émission est déjà en Ojibwe, fait que j'avais déjà compris un peu qu'est-ce que ça voulait dire, mais je ne pouvais pas nécessairement le décortiquer dans ma propre langue. Je sais que tu as quelque chose de bien là-dedans qu'on entend. Si je vais vous partager mon écran, juste un instant. Bon, si vous voyez mon document,
ouais,
ok. Fait que moi j'avais choisi Minotan parce que ça veut dire dans l'Ojibwe, ça veut dire aimer l'entendre, aimer comment ça sonne. Si je dis, mettons, si je conjugue Nimonotan, j'aime l'entendre, j'aime ça comment ça sonne. Il y a aussi une autre variante qui est plus la personne. J'aime l'entendre. Dans le fond, tu es Nimonotaur. J'aime comment qu'il sonne. Puis si on regarde en Inuit et Moon, c'est Minutaguan, quelque chose qui est beau à entendre ou que ça a un beau son. J'ai pas trouvé l'équivalent, par contre, pour l'animé, mais d'après moi, ça doit ressembler comme Minutaguzio. Parce que c'est juste transposer, c'est juste changer une lettre, là, Miro, Mino. En Mouscree, ils disent Minutaguzio, il sonne bien. Minutaguan, ça sonne bien. En Ascapi, c'est Miutaguzio, il sonne bien, il sonne bon. Miutagun, ça sonne bien, ça sonne bon. Puis le cri de l'Est, Miutaguzio, il semble ou paraît aimable, agréable ou gentil. Ça sonne, en fait, c'est par rapport au son. Miutagun, c'est bon à entendre, ce sont des bonnes nouvelles. Ça aussi, on peut interpréter ça comme une bonne nouvelle, Mirotagun. C'est quelque chose que c'est bon à entendre. Ça, c'est le cri de l'Est, oui, c'est ça. Cri des plaines, Mirotaguzio. Comme je pense qu'on voit, c'est quasiment pareil, là. Il a un son agréable, il a une voix attrayante. Miotum, il aime le son de quelque chose, il considère que quelque chose sonne bien, il aime la façon dont quelque chose est dit. Nimuruten, c'est ça, j'aime bien ce que j'entends. En Anishinaabemowin, c'est Minutaguzi, il sonne bien, Minutagut, ça sonne bien. Puis en Atikamekw, on va dire Mirotum, c'est quelque chose qu'on aime le son. Nimurutum, c'est quand on dit à la personne, il aime le son, il aime comment ça sonne. Minutagun, c'est quelque chose qu'on aime bien entendre, il met quelque chose de bien. Sinon, il y a Mirotaguzio qui veut dire quelque chose à être belle à entendre, elle a une belle voix. Puis, on pourrait dire aussi que c'est quelque chose qui est clair, qu'on comprend bien. Fait que, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est juste les premiers deux syllabes, c'est Mino. En Ojibwe, ça veut dire bon ou bien. Mino en Inuit et Moon, Milo. Mio, Mio, Mno, Miro. Fait que, déjà là, dans toutes les langues minotanes, toutes les langues autochtones algonquiennes vont comprendre ton émission, qu'est-ce que ça veut dire. Mm-hmm. C'est ça que je trouve attrayant en entendant le nom de ton émission.
Wow, c'est beau. Tu peux-tu me l'envoyer, ce tableau-là? C'est vraiment cool.
Ben oui.
Parce qu'au départ, moi, j'avais le questionnement de... Parce qu'en Anishinaabe, moi, je pensais qu'on disait Minotam avec un M. Et non un N à la fin, mais je pense que ce qu'on me disait, c'est que c'était le verbe. Mais que si on veut dire que c'est quelqu'un qui aime ce qu'il entend et non juste aimer ce qu'on entend, c'est pour ça qu'on disait Minotan avec un N à la fin. Mais ça a été, je pense, notre premier questionnement quand on était en brainstorming pour le titre. Mais j'ai longtemps hésité, je pense, entre Minotam et Minotan. Mais c'est beau le tableau que... De la manière de se présenter. Mais c'est vrai que oui, je pense que l'Ojibwe est tellement proche de la Anishinaabe, l'Atikamekw aussi est très, très, très proche. Fait que c'est beau de voir la comparaison. En fait.
Donc, tu vois, même à travers le nom de ton émission, bref, là, pour les gens, les non-locuteurs de langue autochtone, là, vous êtes maintenant avertis. À travers le titre, ça vous le dit, il faut l'écouter, c'est agréable à entendre, que ce soit au niveau des découvertes musicales et l'univers de Samian. Est-ce que tu peux nous répéter, c'est quand, pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, là, pour Minotan, quand est-ce qu'on se branche?
Minotan est en direct diffusé à tous les samedis soirs à 21h. Et la rediffusion, elle est les vendredis soirs, le vendredi suivant à 23h. Et c'est surprenant parce que c'est ce soir-là que les gens, j'ai l'impression, que les parts de marché sont le plus élevées. C'est les vendredis soirs à l'émission de reprise, les samedis soirs... à 21h, sinon sur l'application audio en rattrapage en tout temps. Donc, comme je fais avec Reclaim, CBC Reclaim, tu sais, que des fois on n'arrive pas à l'attraper à l'heure, ben écoute, on va sur l'application, on a une heure de route à faire, mais notre temps dure une heure, donc je trouve que c'est une belle case horaire en fait, c'est un beau moment, si on a une heure de route à faire. Minotan s'écoute extrêmement bien sur la route, et puis c'est ça, c'est des découvertes après découvertes. Puis, c'est inépuisable, infini.
Ouais. Puis, en fait, ce qui est intéressant aussi pour les auditeurs d'Espace Musique, des six premières, parce que vous êtes comme un peu en Moi, j'en fais un doublé du samedi soir, juste avant toi, à 20h, il y a Kwekwe, l'émission avec Mélissa Mollen. Et après, on fait juste changer de poste, et là, c'est toi. Donc, c'est quand même un très beau samedi soir pour ceux qui sont curieux aussi de se mettre à jour, autant au niveau de la musique que l'actualité aussi avec Mélissa. Là, ça fait de très beaux samedis soirs. Puis en même temps, ben, comme tu dis, on peut les écouter aussi en reprise. Mais bref, vous avez, Mélissa et toi, à travers vos émissions respectives, grandement contribué à changer, si on veut, à brasser des cartes à l'intérieur de la Grande Tour. C'est très intéressant. Mais merci beaucoup, Samiam, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Un plaisir. Merci de l'invitation. Je suis content que ça marche, qu'on a réussi à trouver une date finalement pour être avec vous autres. Fait que merci beaucoup de l'invitation.
Ouais, merci. Puis en passant ça, pour une petite précision pour Minotam, il me semble que Minotam, c'est une autre forme de verbe. C'est deux verbes intransitifs, animés. Non, l'autre est animé, puis l'autre est inanimé. Fait que minotum, c'est inanimé, ça veut dire que c'est quelque chose que tu entends. Mais minotum, c'est quelque chose que tu aimes bien entendre. Fait que c'est un exemple, Nimurutao, c'est genre, tu parles, mettons, d'un artiste en particulier. Tandis que minotum, c'est général, c'est comme impersonnel.
Wow.
Minotum, ouais.
Merci. Éclaircissement.
Merci d'être avec nous. Fait que on va se revoir la semaine prochaine. Ben, en fait, pour nos auditeurs, pas pour toi, Samian.
Si vous voulez me réveiller, ils n'ont pas plaisir de venir vous
jaser. C'est bon. Bon, Nigouette, merci d'être là. Matsashi.